Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent en première partie « Séjour d'un pèlerin en France ». Il s'agit de lieux de pèlerinage dans la ville de Paris et je me suis rendu au Mont-Saint-Michel. Ensuite, je suis monté à ma cellule et j'ai pu faire un enregistrement. Donc, pendant une heure, j'ai fait l'enregistrement qui précède celui que vous entendez. Parce que hier, je n'avais pas eu le temps et je crois que ça aurait été difficile en soirée de le faire dans ce cadre monastique. Je suis dans ma cellule et autour, même si nous sommes justement dans une tour, escalier, colimaçon, tout cela, il y a quand même quelques cellules. Et nous avons la responsabilité d'un silence, de conserver le silence à l'intérieur des murs. Mais ça n'empêche pas, je ne suis pas en train de crier, ça n'empêche pas de faire ces enregistrements, de pouvoir faire le récit de ce que nous sommes en train de vivre pour vous. Donc, je vais faire cet enregistrement et ensuite c'est le moment, c'est l'heure de nous rendre à l'église abbatiale pour la célébration de l'Eucharistie. Et nous arrivons à cette église abbatiale, il y a déjà beaucoup de monde. C'est l'église des moines, c'est la messe du dimanche, la messe dominicale. Alors parmi les milliers, ce sont des milliers de gens qui viennent ici tous les jours là. Des milliers. Je crois que dans les journées les plus chargées, on dénombre près de 20 000 personnes. Vous imaginez? 20 000 personnes sur le Mont Saint-Michel. Là, il y en a moins, mais il y en a encore beaucoup. Et parmi ces touristes, parmi les gens qui viennent faire la visite, il y a des gens qui sont croyants et croyantes, qui sont chrétiens, chrétiennes. Donc, ils viennent, ils le savent, qu'il y a l'église, la messe dominicale. Donc, l'abbaye, en tout cas, l'église en hauteur, elle était remplie. Elle était remplie de gens qui venaient là, évidemment, pour la célébration de l'Eucharistie. Alors, le frère hôtelier nous a amenés à la sacristie. Donc, on descend encore des marches, on en descend encore pour entrer dans la sacristie. Et là, il nous revêt des habits monastiques, alors l'habit monastique plus l'étole, et il nous invite à monter et à nous placer à un tel endroit dans le cœur de l'église abbatiale. Donc je vous dis, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens, même autour, dans ce qui entoure le cœur de l'église abbatiale, il y a aussi des bancs et des personnes sont déjà en place. Les gens sont déjà en place. Les sœurs sont déjà là. Elles prient en silence. Et on se prépare à la liturgie du dimanche, qui est une très belle liturgie. Une liturgie chantée. La plupart des textes, même des lectures, seront chantés. Et c'est très beau. C'est très priant. Celui qui présidait a bien accueilli l'ensemble des personnes qui étaient là. Il a bien situé aussi le sens de l'événement, donc l'Eucharistie qui est célébrée, le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur. Il a bien saisi l'assemblée et ça s'est déroulé comme une liturgie avec quand même quelques aspects différents qui viennent, à mon avis, aussi de la tradition byzantine orthodoxe. On insère des éléments dans la liturgie pour, je dirais, comme nous conscientiser à nouveau dans le mystère que nous célébrons. Ce sont comme des petites retouches pour nous dire ce qu'on est en train de vivre, le mystère que nous sommes en train de vivre. Nous sommes deux prêtres qui se sont ajoutés aux moines. C'est une communauté des moines où il y a un prêtre, à mon avis, deux diacres et un frère. C'est ajouté à cela un diacre permanent. Donc un diacre permanent, c'est quelqu'un qui est marié, qui a une famille. Alors il s'est invité, il est venu à la sacristie, on lui a donné les vêtements aussi, et il a, avec nous, dans le cœur, prié l'Eucharistie dans la concélébration. Donc tout se fait dans un rythme monastique. Un rythme monastique, c'est un rythme qui respire. Nous donnons le temps à la parole de prendre vie, de respirer. Il n'y a pas de course. Le rythme est toujours un mouvement. Tout se fait dans la simplicité, mais dans une sorte de cadence où les éléments s'enchaînent. Il n'y a pas de retard. On pourrait penser, bon, ok, c'est silence, ou il y a tel événement, et après ça, on attend que la personne soit arrivée. Non, tout s'enchaîne, et tout s'enchaîne de manière harmonieuse. Et c'est une belle liturgie, comme je vous dis. Parfois, nous avons des séquences qui nous viennent de l'orgue, il y a un organiste. D'autres fois, c'est une flûte. D'autres fois, même pendant la prière eucharistique, à un moment donné, c'était très, très beau. Il n'y avait que des voix, des sons, vous savez. On entendait C'était beau. C'est comme la prière soutenue, c'est le souffle, l'Esprit Saint qui soutient. Disons, la messe est comme un épiclèse, c'est l'Esprit Saint qui agit à travers celui qui préside, à travers nous. C'est toujours l'Esprit Saint qui agit dans tous les sacrements de l'Église. Alors, heureusement, ces éléments nous rappellent le don de l'Esprit, qui est répandu non seulement sur le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang du Seigneur, mais sur l'assemblée. L'épiclèse se répand sur tout le corps rassemblé qui célèbre l'Eucharistie du Seigneur. Ensuite est arrivé le Notre Père, la communion. Ça a été long, le temps de la communion aussi. Plusieurs personnes sont venues communier. Pendant la célébration, il y a eu des moments où je voyais le frère hôtelier un peu dérangé parce que les touristes n'ont pas le droit de circuler autour du cœur. Mais il y a toujours des brebis qui vont dépasser probablement un câble ou en tout cas une section où ça doit être écrit réservé ou ne pas avancer. En tout cas, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui étaient en train de regarder tout autour. Donc ça dérange quand même la célébration puisque tout le monde, tous les regards convergent vers le cœur, vers l'autel, vers la présidence. Alors, quand vous avez à l'arrière quelqu'un qui est avec son iPhone et qui est en train de photographier un vitrail ou quelque chose comme ça, c'est moins élégant. C'est moins élégant pour la célébration de la messe. Donc, le frère, j'ai vu le frère hôtelier, de manière simple, courageuse, quitter le cœur et aimablement dire quelques mots aux personnes pour qu'elles comprennent que nous sommes en train de vivre quelque chose qui concerne des centaines de personnes, mais ces gens sont là et ils ne savent pas, au fond. ils ne sont pas responsables, mais il faut leur indiquer que ce n'est pas le moment de prendre des photos à cet endroit précis. J'ai perçu aussi des gens de d'autres religions et c'était touchant de les voir écouter le prêtre, surtout au moment de l'homélie. Le prêtre, c'est un diacre, le frère diacre a fait l'homélie. C'était vraiment très beau, c'était nourrissant, c'était très beau. Et je voyais des gens de d'autres religions écouter avec respect, parce que ce n'est pas leur tradition. Ils entrent dans une église chrétienne, mais ils sont d'une autre religion. Le respect. À un moment donné, ces gens sont disparus, ils sont repartis, ils ont dû continuer leur visite. Alors nous avons concélébré cette Eucharistie dans l'amour, dans l'action de grâce, et ensuite nous avons quitté, nous sommes retournés à la sacristie, le diacre permanent nous a suivis, et là, on a vu arriver ses enfants. Alors, une fille et un garçon. La fille est l'aînée, le garçon est le suivant. Alors, on a causé un petit peu avec eux, et lui, c'est un militaire, il est, je pense, encore dans l'armée, peut-être padré dans l'armée, comme diacre. Et les enfants, alors, les enfants étaient quand même réservés, tout ça. J'ai essayé de mettre un petit peu de vie dans tout ça, parce que le diacre, lui, était très joyeux, mais les enfants étaient réservés. Alors on s'est mis à causer, et j'ai demandé aux enfants, quel nom votre père et votre mère vous ont-ils donné? Alors là, ils étaient encore gênés. Alors le petit garçon, ça a été le premier vers qui le père s'est tourné, alors Jean-Baptiste. Et la jeune fille, Sophie. Et là, il nous a expliqué pourquoi. Il a dit, moi j'ai étudié la philosophie et j'ai étudié la théologie. Donc pour la philosophie, Sophie veut dire sagesse. Et pour la théologie, il dit, nous voulions l'appeler Théo. Mais, comme je m'appelle Jean, nous avons opté pour Jean-Baptiste. Alors, c'est de cette manière qu'on a entendu le prénom des enfants. Et le papa, eh bien, il nous a dit qu'il s'appelait Jean. Alors, c'est simple, vous savez, ces rencontres, c'est très simple, mais je crois que créer un contact avec des gens qu'on ne connaît pas, alors eux, le père surtout, s'est informé de nous. Vous venez d'où? Alors, il avait un cousin. Il nous a dit qu'il avait un cousin au Québec. Donc, c'est comme ça. On fait des rencontres très simples. On avait prié ensemble. Alors, on leur a souhaité d'être heureux, une bonne continuation pour eux. Nous sommes remontés de la sacristie. Et là, nous sommes allés devant le portail, un des portails, à mon avis, peut-être du côté nord de l'église abbatiale. Donc, on est sur le parvis à l'extérieur. Et c'est absolument magnifique comme décor. On est vraiment au sommet, là. Alors, on voit très, très, très loin les falaises. Et ensuite, les gens sont là, dehors. Il faisait beau, le soleil était là, lumineux. Et on sent la paix, la paix. Le monde a soif de paix. Nous avons soif de paix. L'humanité a soif de paix. Et avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, les gens goûtent. Ils goûtent vraiment ces moments précieux. On sent qu'ils s'approchent des murailles, parce que c'était quand même très bien protégé. Ils s'approchent des murailles. Ils restent là un moment. Ce n'est pas non plus une séance de photographie explosive. C'est calme. Ils savent qu'ils sont près d'une église, une maison de prière. Alors, il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de haussement de voix. tout est calme, parce que la nature vient nourrir cette paix désirée dans le cœur, et le regard est rassasié de beauté.
Les carnets du soir se poursuivent en ouvrant un autre volet, de la rose bleue, la veuve au temple de Jérusalem, avec Denise Verville sous la direction de Jacques Leblanc.
La rose bleue, 60 ans après Jésus-Christ, 13 pétales. Texte Denis Veilleux. Aujourd'hui, la veuve au temple de Jérusalem. Narration Denise Verville.
Je suis vieille, vous savez, et j'ai largement dépassé l'âge limite. C'est ce qu'on me répète, ou plutôt qu'on chuchote autour de moi. Ils croient que je suis sourde. Mais j'entends mieux que lorsque j'étais jeune. C'est bien étrange, hein? Je vis depuis mon veuvage, ce qui représente au moins 30 années, dans une petite demeure où l'on m'a donné la pièce tout au fond. Avec mes mains, je touche le roc. On enlevait les olives, le vin, les dattes, tout ce que l'on y remisait pour me faire cette petite place. Mon changement de vie a été très difficile pour moi. Non seulement je venais de perdre mon mari, mais bientôt, je devais aussi perdre mes deux fils. Pas de la même manière, toutefois, je vous raconterai. Comment comprendre que mon défunt mari ne m'ait rien laissé? C'est pour moi non pas un mystère, mais une énigme. Nous vivions tous très bien dans la ville haute à Jérusalem. Nos deux fils qui avaient fait de beaux mariages avaient aussi leur famille. À la mort de leur père, ils ont tout pris, absolument tout. Ils ne m'ont laissé que mes vêtements et deux paniers d'osier. L'ingratitude de la part de mes enfants que nous avions très bien élevés me dépasse. L'un est devenu magistrat, il sert les intérêts des Romains, et l'autre, il est commerçant du côté des Nabatéens. Se peut-il que leur femme ait eu un rôle à jouer dans tout ça? Je n'ose pas le croire. Jusqu'à mes petits-enfants qui ne sont jamais venus me voir. Tout cela est une pure énigme, une longue nuit dont je ne verrai la lumière que lorsque j'aurai fermé les yeux. Heureusement, notre domestique, jadis acheté à grand prix en Égypte par mon défunt mari, ne m'a jamais laissé. Nous ne demeurons pas ensemble, mais elle vient régulièrement me visiter et elle me donne des nouvelles de mes enfants. Elle le fait sans qu'on le sache, puisqu'elle est au service de notre aîné. C'est elle qui m'a appris le malheur qui s'est abattu sur eux. Ah, voilà où mène l'ambition des pères sur leurs enfants. Leur propre fils, très proche de l'entourage du roi, a été retrouvé mort à Jéricho. Il avait un des postes les plus importants dont on peut rêver. Mais avec ces gens-là, les rêves se transforment en cauchemars. Lorsque je pense à mon petit-fils, j'ai mal. Quant à mon cadet, il a perdu sa femme et ne s'en console pas. Ses enfants ont quitté le pays et se sont installés dans d'autres villes où ils ne seront jamais. Il a peur des brigands sur les routes, je peux le comprendre. Il a ses limites. Moi, je suis toujours sur la limite, non seulement avec l'âge, mais depuis mon veuvage. Je vis même au-delà des limites. Il n'empêche qu'un jour, j'ai découvert que pour le Tout-Puissant, la limite était un commencement. C'est vrai. Nous, les humains, nous avons tendance à croire que toute limite est une fin ou que la catastrophe est annoncée. Nous redoutons donc constamment l'effondrement. Mais avec le Tout-Puissant, nous est donné l'espoir d'assister au commencement de quelque chose. c'est ce que j'expérimente depuis tant d'années, en me rendant toujours à la limite, en la dépassant même parfois. C'est comme si je plongeais dans la mer en pleine nuit et que je remontais chaque fois dans les eaux de l'aurore. C'est un peu difficile à expliquer. Au fond, ça ne s'explique pas, ça se vit. En perdant tout, j'ai décidé de tout donner, absolument tout de ma vie à Dieu. Et chaque fois que j'ai touché cette limite, j'ai commencé à vivre autrement. Je vais vous raconter un événement qui m'a beaucoup remué. Il y a de cela fort longtemps, je me suis rendue au temple. Je n'avais plus rien à déposer dans le trésor. Vous savez comment les choses se passent. Vous entrez dans une grande salle où des yeux indiscrets soupèsent vos gestes et vous déposez vos dons en espèces pour que le temple soit toujours digne de la présence de Dieu. Ah, que ce bruit des pièces écorche mes oreilles. Ce jour-là, il y avait beaucoup de monde dans la salle du trésor, et j'attendais mon tour. Je ne souhaitais pas être vu ni reconnu des hommes, mais que de Dieu. Il ne me restait que 2 piécettes, toujours la limite, vous voyez. J'avais pourtant dans mon cœur décidé de tout donner, ayant mis toute ma confiance en l'Éternel. Seul lui pouvait m'aider à monter ou à descendre la prochaine marche de mon existence. J'étais entrée presque de peur, n'osant regarder personne. J'aurais voulu jeter rapidement mes 2 piécettes dans le tronc des offrandes, mais il y avait tant de monde devant moi. Isis, notre domestique, m'avait reconnue. Étant païenne et non libre, elle n'était pas autorisée à entrer ni au temple, ni à la salle du trésor. Mais elle pouvait se tenir sur le seuil de l'entrée de la salle dans la cour, pour observer tout à son aise. Les gens de sa condition y étaient tolérés. C'est elle qui m'a tout raconté ce que je vous dis à présent. Elle a vu mes 2 fils entrer et faire grand bruit de leurs dents. C'est vrai. Elle les a entendus prier à haute voix pour implorer la protection du Tout-Puissant. Moi, la tête toujours baissée pour rester inaperçue, je me tenais derrière eux. De toute façon, ils n'auraient pas pu me reconnaître, tant mon apparence avait changé. Selon Isis, après que j'eus déposé mes 2 piécettes, le fameux guérisseur de Galilée, un dénommé Jésus, dont on parle tant de nos jours, s'est adressé à ses compagnons. Elle croit qu'ils étaient arrivés ensemble. Toujours est-il qu'après ma maigre au bol, il devait certainement lire dans les cœurs. Il leur a dit « Cette veuve a donné tout ce qu'elle avait, tandis que tout le tapage que vous entendez vient du surplus des autres. » Il avait raison. Le bruit nous submergeait. C'est sûrement à cause de ça que je n'ai pu reconnaître les voix de mes fils quand ils ont prié dans la salle du trésor. Isis est allée encore plus loin. Ah, je ne veux pas dire qu'elle soit entrée dans la salle du trésor, mais lorsqu'ils sont sortis après moi et mes 2 fils, elle est allée dire au guérisseur de Galilée « Regardez bien ces 2 hommes de fière allure, ce sont les 2 fils de cette femme. » N'en revenant pas, les gens qui accompagnaient leur guérisseur n'ont pas caché leur indignation. C'est alors que le guérisseur, et j'ai appris plus tard que c'était un rabbi, leur a dit « Ne vous étonnez pas, ils sont légions à délaisser leurs devoirs envers leurs parents et à détourner ce qui est demandé par la loi. Ils achètent les privilèges et les honneurs au mépris du respect dû à ceux qui les ont mis au monde. » Moi, je prie le Tout-Puissant pour eux et je ne comprends toujours pas ce que mon mari a pu faire pour qu'il en soit ainsi. Mais je n'ai pas de révolte, ni de rancune en moi. C'est bien ce que je vous disais. Dieu crée des commencements avec les limites. Que s'est-il passé ce jour-là après mon offrande des 2 piécettes qui me restaient? Je ne m'en souviens pas. Mais ce que je peux dire, c'est que chaque fois que j'ai le ventre creux, je prie avec ma limite et je recommence à espérer. Je devrais être morte depuis longtemps. Mes fils sont vieux, même. Ils ne se rendent même plus au temple. Ils font parvenir leurs dons par d'autres. C'est Isis qui me l'a appris. Cette bonne Isis, qui me dit tout sans savoir que parfois ce que j'entends me fait pleurer. Ah, qu'est-ce qu'il y a maintenant pour moi aujourd'hui? Je vais trouver sans doute ce qui me fera commencer encore et encore. Elle est bien là, ma limite. Et le Tout-Puissant est en route. Isis, je sais que tu n'es pas là, mais je te parle comme si tu y étais. Ne dis pas à mes fils que je vis toujours. Ils souffriraient peut-être. Le guérisseur a aussi touché la limite, ici même à Jérusalem, on me l'a raconté. Mais il semble bien que ce fut le commencement de tout ce qui devait arriver par la suite. Paraît-il que ses adeptes sont un peu partout. Il leur a donné toute la terre à nourrir de ses paroles. Il n'a mis aucune limite en les envoyant. Lui seul, me semble-t-il, pouvait accomplir cela. Quand je repense qu'il a lu dans mon cœur, je crois qu'il me voit toujours le guérisseur de Galilée. Je ne sais pas si je dois accepter la dernière proposition d'Isis. Mon fils devenu veuf désire se rendre aux eaux de la mer morte. Comme il a peur des brigands sur la route, il a ordonné que tous ses esclaves l'accompagnent là-bas. Isis sera toute seule pour garder la place. Il s'absentera 10 jours, un pour chaque plaie d'Égypte, lui a-t-il dit. Bien sûr, la perspective de revoir ma maison est tentante. Cependant, bien des choses ont sans doute changé depuis la mort de mon mari. Alors, pourquoi refaire un passé qui n'existe plus.
Vous venez d'entendre « La veuve au temple de Jérusalem », la 8e d'une série de 13 émissions intitulée « La rose bleue, 60 ans après Jésus-Christ, 13 pétales », texte et musique, Denis Veilleux, narration, Denise Verville, à la technique, Yannick Caron. Réalisation, Jacques Leblanc.